j'ai vécu des trucs pas hyper cool dans les cuisines. Les mecs qui te mettent la main au cul, qui te parlent mal. À un moment donné, il faut que ça s'arrête.
Le phénomène MeToo qui gagne nos grands restaurants.
Casserole en cuisine, c'est le titre de ce dossier. Et la première phrase de l'article a le mérite de planter le décor. Témoignage de Julie. Dans le milieu, tu es constamment en train de repousser des avances.
Dès son arrivée, elle est confrontée au sexisme de la brigade, presque exclusivement masculine.
Ça commence par « t'es une salope, une pute ».
À ce jour, il n'existe aucun rapport ni chiffre sur les conditions de travail des cuisiniers en formation.
Et puis les réseaux sociaux sont passés par là, là encore dans ce genre d'affaires. Le compte Instagram « Je dis non, chef » est suivi aujourd'hui par 30 000 personnes.
Pour obtenir de l'aide, la jeune femme se tourne alors vers une personne de confiance, son professeur de cuisine. Elle le supplie de la changer d'établissement.
Il m'a répondu mot pour mot. Constance, il faut que tu t'y habitues, ce sera comme ça toute ta vie.
Montage réalisé par Annabelle Brouard pour introduire cette fabrique médiatique consacrée à l'enquête que vous avez co-signée avec Lénaïgue Brodou dans Mediapart. Nora Boisouni, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes journaliste indépendante, autrice du livre « Féminisme, FIM, quand le sexisme passe à table », publié en 2017 aux éditions Nourriturfu. Et vous co-signez donc cette enquête dans Mediapart « MeToo, dans la gastronomie, l'espoir d'un changement ». Il est question de violences physiques, psychologiques, sexuelles rapportées par des salariés hommes et femmes de la restauration. L'article a été publié il y a quelques jours, mais le travail a commencé pour vous bien avant, puisqu'au départ, il y a un questionnaire que vous avez mis en ligne en mars dernier. Expliquez-nous comment vous avez procédé.
Eh bien, en fait, moi, je m'intéresse à l'alimentation d'un point de vue sociétal depuis quelques années. Dans mon livre, notamment, vous avez cité, je parlais déjà des violences en cuisine, du sexisme dans les cuisines des restaurants. Et au mois de mars, il y a eu le confinement, donc les salariés de la restauration étaient quasiment tous et toutes au chômage. Et je me suis dit, c'est le bon moment pour que ces gens qui travaillent 80 heures par semaine aient le temps de répondre à un questionnaire qu'on a voulu le plus exhaustif possible. Donc j'ai contacté Camille Moncarnel, donc la créatrice du compte Instagram qui était citée dans la
bande.
Voilà, donc Je dis non chef, qui elle publie depuis plus d'un an et demi des témoignages qu'elle recueille de personnes victimes de violences, quelles qu'elles soient, dans les cuisines ou en formation, dans les CFA ou les écoles de galerie restauration. Donc je l'ai contactée en me présentant, en lui disant « Écoute, je crois que là, il y a quelque chose qu'on peut faire, on peut donner cette plateforme aux gens et aussi pour avoir une espèce de panorama, comme on le rappelait tout à l'heure, eh bien, il n'y a effectivement pas d'enquête, en tout cas restante, sur les conditions de travail extrêmement pénibles de ce milieu.
Alors, vous expliquez avoir reçu énormément de témoignages. Comment les avez-vous recoupés? Avez-vous pu les recouper?
Alors, pour l'instant, le but, c'est pas de recouper tous les témoignages, parce que sinon, ça prendrait des années.
Ouais.
Là, le but, c'est de recueillir des données, d'avoir des gens qui peuvent nous laisser leur mail pour être recontactés dans le cadre d'une enquête ou plusieurs enquêtes journalistiques. C'est ce qui s'est passé là avec l'enquête pour Mediapart. Ce sont des gens qui ont laissé leur témoignage et leur adresse mail sur ce questionnaire. Donc là, on a assez de témoignages pour faire des années d'enquête, puisqu'on a plusieurs milliers de personnes qui ont répondu et on va dire plus de la moitié qui ont laissé leur mail. Voir le nom des établissements.
Ouais, alors, et justement, comment avez-vous sélectionné, c'est-à-dire que là, les témoignages qui sont dans l'enquête, c'est pas seulement ceux qui ont été postés, c'est-à-dire vous avez été en contact avec ces personnes par la suite.
Oui, alors, sélectionner, c'est compliqué, parce que quand on a des milliers de réponses, on se demande par où on va commencer. En fait, il a fallu trouver l'angle, je le rappelle dans cet article de Mediapart, moi j'enquêtais sur le chef Taku Sekine. Depuis l'été, donc qui s'est suicidé fin septembre. J'enquêtais sur des témoignages qui l'accusaient de diverses choses. Et l'enquête a été abandonnée puisqu'il est mort. Donc déontologiquement, s'il n'y a pas de contradictoire, c'est-à-dire si on ne donne pas la parole à l'accusé, on ne peut pas publier une enquête. Et on s'est quand même dit avec Lénaïgue Brodou, mais il faut qu'on publie quelque chose parce que là, j'ai plein de données sur les bras, j'ai plein de témoignages. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a cherché un angle intéressant pour parler des violences en cuisine, sans repartir sur une enquête de plusieurs mois avec un nom, avec un accusé ou une accusée ou un établissement. Et donc, on s'est dit, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de violences sexuelles et sexistes, notamment, la première question qui revient, c'est « Mais pourquoi les gens ne portent pas plainte ?» Et pour moi, c'est pas l'alpha et l'oméga judiciariser ces choses-là, c'est pas nécessaire pour tout le monde. des gens qui ne veulent pas le faire, des gens qui ne peuvent pas le faire. Et je trouve intéressant d'écrire un article avec des témoignages de gens qui nous racontent pourquoi ils ou elles ont porté plainte, pourquoi ils ou elles n'ont pas porté plainte, pourquoi c'est compliqué de porter plainte et pourquoi c'est pas forcément souhaitable.
Alors, il y a des personnes qui sont citées dans votre enquête, d'autres qui ne le sont pas. Comment avez-vous décidé d'écrire ou pas les noms, je veux dire les vrais noms des personnes et des personnes accusées en particulier?
Alors, quand une plainte est déposée, c'est plus simple pour des journalistes de publier le nom. Puisque c'est en fait une plainte a été déposée contre Monsieur Y ou Madame X. Quand on accuse quelqu'un, quand on publie des accusations et qu'on veut nommer la personne, c'est un très très gros travail justement de recouper les sources. Il faut, s'il n'y a pas de preuves, c'est encore plusieurs, ce qu'on appelle des preuves matérielles, ça peut être des textos, une conversation enregistrée, ça peut être des mails, ça peut être des témoins, ça peut être des personnes à qui on a parlé. Donc il y a énormément de cas où les gens n'ont pas de preuves. Donc, c'est très dur de recouper ça. Donc ça prend énormément de temps de faire une enquête quand on veut sortir un nom. Ce papier, moi, je voulais le faire comme un papier préalable, un papier un peu préliminaire pour poser les bases. De quoi on parle quand on parle de violence dans la restauration? Pourquoi est-ce que ça m'était particulièrement touchée par ça? Pourquoi dans ce métier, il y a des violences qui commencent déjà avec le non-respect du contrat de travail? On a des gens qui sont quand même... C'est quand même une industrie, rappelons-le, qui repose sur l'exploitation d'une main-d'œuvre qui travaille gratuitement pour la moitié des heures effectuées. Des gens qui signent des contrats de 35-39 heures et qui en font 80 et qui ne sont pas payés en dessus. Donc la première violence, c'est déjà, donc je crois qu'il faut que les gens sachent déjà comment fonctionne ce milieu pour comprendre ensuite comment des violences qui sont systémiques, hein, en termes de sociétal, donc le sexisme est systémique, l'homophobie, le racisme, c'est systémique, mais comment ce milieu est particulièrement gangréné par ça.
Oui, avec des choses qui paraissent finalement intégrées ou presque communes quand on vous lit, type la petite cuillère chauffée à blanc plaquée sur le visage ou ce genre de sévices qui effectivement paraissent être quelque chose d'intégré. Il y a votre enquête, Nora Boisouni, il y a eu aussi précédemment des enquêtes de Libération du magazine Le Monde. On voit comme souvent en fait avec ces affaires une espèce d'effet d'entraînement, c'est-à-dire que la parole des premiers ou des premières libère celle des autres. C'est cela qui se passe aussi dans la restauration?
En fait, moi j'ai un problème avec cette histoire de libération de la parole, parce que les gens parlent depuis très longtemps. Moi, je traîne beaucoup dans les restos, et je traîne pas avec les chefs en fait. Moi, je traîne avec les gens qui font, quand on va manger dans un restaurant, bah, on est servi à table, et c'est des gens qui nous servent, qui font la cuisine, qui font la planche, qui font le ménage. Ces gens-là, ils parlent. Il faut les écouter, il faut les croire. Je crois que le vrai problème, c'est que souvent, on ne croit pas les gens, on minimise. Donc, MeToo, c'est un phénomène plus de libération de l'écoute que de libération de la parole. Alors, effectivement, oui, il y a un effet d'entraînement où les gens vont se dire... Mais les gens vont pas se dire « je peux enfin parler », les gens vont se dire « on m'écoute enfin ».
Oui, alors, l'effet d'entraînement, il est peut-être aussi, en fait, entre médias, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'y met et qu'ensuite, les autres suivent.
Exactement. Pour moi, c'est plutôt ça. Alors, sur le questionnaire... par exemple, sur les faits d'entraînement, le questionnaire est publié. Moi, j'ai des personnes que j'ai au téléphone qui me racontent des choses sordides qui leur arrivent et qui après, en fait, sont rassurées, qui ont confiance, qui voient que Camille est sérieuse, que je suis sérieuse, et du coup, qui vont dire à leurs amis, à leurs collègues, tu peux témoigner, t'inquiète, c'est des gens qui nous croient et qui nous écoutent.
Alors, vous l'avez dit, donc fin septembre, le chef Taku Sekine s'est suicidé alors que Mediapart enquêtait depuis plusieurs mois sur des accusations d'agression sexuelle le concernant. Vous travailliez en l'occurrence sur cette enquête. Son nom associé à ces accusations était sorti sur un site spécialisé. Au-delà du fait que ça vous a fait arrêter cette enquête, est-ce que ça vous a aussi fait douter justement de ce travail, de qu'est-ce qu'on fait avec les noms, qu'est-ce qu'on fait avec les accusations quand on n'a pas encore de preuves, qu'on n'est pas allé au bout? Est-ce que ça vous a fait douter de votre travail?
Non, parce que moi j'estime que j'ai fait mon travail de journaliste correctement, de manière irréprochable, j'espère. Et je le crois profondément. J'ai pas balancé un nom. Mon enquête a fuité parce que c'est un milieu sur la restauration. Bah, où tout fuit très très vite, et je savais très bien que ça allait savoir rapidement, que j'en étais sur un nom particulier. Ça a été le cas. Ça a fuité extrêmement tôt dans l'enquête, ce qui est compliqué quand on est journaliste d'enquêter, quand tout le monde sait ce sur quoi vous enquêtez, et que tout le monde veut essayer de sortir les informations avant vous aussi. Et parlons de ça, entre médias, c'est un peu la guerre. Donc c'est pas très agréable quand on enquête sur quelque chose d'aussi compliqué, voilà. Non, moi je doute absolument pas de mon travail, je doute absolument pas surtout de la nécessité de sortir des noms, parce que on sait très bien que ce qui fait peur c'est la dénonciation, ce qui fait peur aux gens ils savent très bien que leur comportement devrait changer. Ce qui leur fait peur, c'est pas des gens qui témoignent anonymement dans un journal. C'est la menace au-dessus de leur tête de sortir un nom un jour et que leur nom sorte. Et je crois que c'est important de sortir des noms. L'enquête de Mediapart qu'on a publiée avec Naïgla, il y a peu de noms parce que c'est des choses qui prennent énormément de temps et on avait un papier qu'on voulait publier rapidement sur un angle différent. Mais avec les données que j'ai récupérées avec Camille via le questionnaire, on a vraiment des noms, mais c'est... En fait, c'est terrible parce que on se demande où est-ce qu'on va aller manger demain quand on a les moyens d'aller au restaurant. Parce que les noms, c'est tout le monde, en fait.
Alors justement, dans cette enquête-là, qui, donc on le comprend, on est peut-être que la première sur le sujet, il est beaucoup question de restaurants étoilés, de boulangeries, pâtisseries très réputées. On est plutôt dans le haut de gamme. Est-ce que c'est représentatif des témoignages que vous avez reçus? Ou est-ce que c'est un choix de votre part, un choix d'angle, justement, d'avoir anglé l'enquête sur ces établissements-là, plutôt que sur des restos moins connus, moins huppés?
Alors, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que... Parmi les réponses au questionnaire, on a de tout. On a la petite boulangerie du village de 300 habitants. On a le fast-food très connu. On a le triple étoile. On a le palace parisien. On a le restaurant qui est au guide Michelin perdu dans la Pampa en Charente. On a absolument tout. On a le patron du bar tabac du coin. C'est vraiment de tout. Alors après, c'est vrai que... disons que l'angle, il est choisi pour montrer que c'est pas... Justement, c'est pas parce que... c'est des mecs qui passent à la télé et qui sont jurés d'émissions culinaires. C'est pas parce que c'est des mecs dont on fait des portraits dans la PQN, la presse quotidienne nationale, que ces gens-là sont irréprochables. Je voulais aussi montrer que derrière les ors, les paillettes et les étoiles, en fait, c'est du sang qu'il y a dans l'assiette. Et je trouve que c'est important de dire aux gens, ce mec-là, méga médiatisé, ou cette femme-là qui passe partout, qui écrit 5 bouquins par an, il faut que vous sachiez ce qui se passe dans les coulisses. Et comment elle traite les gens qu'elle fait bosser.
Et donc, vous nous confirmez que vous allez continuer ce travail et vous avez reçu encore, justement, d'autres témoignages à la suite de la publication de cette enquête?
En fait, ça ne s'arrête pas. Il y en a de plus en plus. Déjà, quand les gens ont su que j'enquêtais sur Tacos et Guinée, j'ai reçu encore plus de témoignages. Les gens m'ont contacté en me disant « Ah, il paraît que t'enquêtes là-dessus, ben moi j'ai des trucs à dire ». Et avec le questionnaire, c'est ça. Et avec les enquêtes qui sortent, c'est pareil. Les gens se disent « Enfin, on nous écoute. Enfin, on nous dit « Ça n'est pas normal d'être traité de cette manière dans les restaurants ». Parce que comme vous disiez tout à l'heure, c'est des comportements qui sont banalisés, normalisés dès la formation, dès l'école. On rappelle quand même aux gens qui ne savent pas, parce que les gens ne savent pas comment ça marche, c'est que la restauration, c'est un milieu où les gens peuvent arriver à l'âge de 14-15 ans.
Très tôt.
En fait. Donc vous avez des gamins et des gamines de 14-15 ans qu'on violente, qu'on humilie, qu'on agresse ou qu'on viole à 14-15 ans et à qui on dit, comme Constance dans le complément d'enquête dont vous avez diffusé l'extrait juste avant, à qui on dit, mais habitue-toi, ça va être comme ça tout le temps. En fait, la restauration, c'est ça. L'excellence, c'est la violence. L'exigence, c'est s'oublier, c'est l'exploitation.
Merci beaucoup Nora Boisoni d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Votre enquête écrite donc avec Léna Naïg Bredou est à lire en accès abonné sur Mediapart et votre livre donc Féminisme quand le sexisme passe à table, publié en 2017 aux éditions Nourriturfus. Merci d'avoir été avec nous.